Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Bonjour, ici Rémi Giguère. Voici votre bulletin du vendredi 17 octobre 2025. Demain à Québec aura lieu la 6e Marche mondiale des femmes sous le slogan « Encore en marche pour transformer le monde ». La marche débute à midi et se termine à 15h devant l'Assemblée nationale. Ayant lieu aux 5 ans depuis l'an 2000, la Marche mondiale des femmes est un mouvement d'action internationale et féministe réunissant des groupes et organisations de base qui œuvrent à l'élimination des origines de la pauvreté et des violences faites aux femmes. Avant la marche, le site s'animera dès 10h avec notamment des kiosques d'éducation populaire autonome féministe, des cours d'autodéfense et des artistes sur scène. L'Université Laval a lancé hier le chantier d'un nouveau bâtiment de 180 logements étudiants intégrant un vaste espace dédié à la vie universitaire. Ce projet, né de la nécessité d'atténuer la pénurie de logements et de rendre le campus plus vivant, répond à une hausse du nombre d'étudiants qui a fait chuter la proportion de places en résidence de 15% il y a 50 ans à moins de 5% cette année. L'édifice permettra une mixité de fonctions, alors que son rez-de-chaussée mettra à disposition de la communauté un nouveau point de convergence de la vie universitaire, proposant un lieu de rencontre, de travail et d'implication centré sur les besoins des étudiantes et étudiants. Le Salon Carrière Formation de Québec se poursuit aujourd'hui et demain au Centre de Foire de Québec. Depuis plus de 30 ans, cet événement se veut un rendez-vous incontournable dans le paysage de la formation et de l'orientation professionnelle au Québec. Plus de 150 exposants sont divisés en deux secteurs, le secteur formation et le secteur carrière. Le premier secteur regroupe le milieu scolaire, comme les centres de services scolaires, les centres de formation professionnelle, les cégeps, les collèges privés et les universités, ainsi que les ordres professionnels et les comités sectoriels de main-d'œuvre. Quant au secteur carrière, il regroupe des entreprises en recherche de main-d'œuvre. Et en terminant, demain à compter de 16h, l'avenue Royale fête l'Halloween. Diverses activités et installations testeront l'imaginaire des petits et des grands. On pourra entre autres y faire la file pour se faire lire les lignes de la main et se faire tirer aux cartes, rencontrer un mystérieux chasseur, explorer une collection de pierres d'énergie pour trouver celle qui nous interpelle depuis l'au-delà et visiter une maison hantée. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Me dit, vous ne pouvez survivre en ne mangeant que des produits d'origine végétale, car ils n'apportent rien de ce qui sert à fabriquer les os. Et il consacre ainsi religieusement une partie de sa journée à fournir à son organisme ce qu'il croit être la matière première des os, sans cesser de marcher tout en parlant derrière ces bœufs qui, avec leurs os d'origine végétale, le tractent en le secouant, lui et sa lourde charrue, par-delà tous les obstacles du terrain. Par besoins vitaux, j'entends tout ce qui, parmi toutes les choses que l'homme obtient par ses propres efforts, a d'où tout a été ou est devenu à force d'usage long et continu, si nécessaire à la vie des hommes, que très peu d'entre eux, sinon aucun, aient jamais entrepris de s'en passer, que ce soit par sauvagerie, pauvreté ou philosophie. Pour de nombreuses créatures, il n'existe en ce sens qu'une seule nécessité vitale, la nourriture. Pour le bison des grandes plaines, cela consiste en quelques pousses d'herbe comestibles et un point d'eau pour s'abreuver, à moins qu'il ne cherche l'abri de la forêt ou l'ombre de la montagne. Aucune créature sauvage n'a besoin d'autre chose que de nourriture et d'abri. Sous nos climats, les besoins vitaux de l'homme peuvent assez justement se ranger sous les rubriques suivantes. Nourriture, abri, vêtements et combustibles. Car ce n'est que lorsque nous avons réussi à réunir ces quatre choses que nous pouvons nous occuper des vrais problèmes de la vie avec une quelconque liberté et des chances de succès.
La cime des arbres, des ombres à la dérive, la nuit aspire le ciel, la lune boit lentement les reflets diamants. Léger, calme, heureux, l'âme en silence chante. Thank you.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler de véganisme avec notre invité Stéphane Groslot, qui est très impliqué dans la cause végane à Québec et au Québec. Donc, il va avoir beaucoup de choses à nous dire. Il semblerait qu'on est, on a choisi de parler de véganisme comme au bon moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent ces temps-ci. Donc, Stéphane Groslot va nous parler de ça tantôt. Avant, j'ai quelques petites lectures que j'ai retenues pour vous. Dans le Devoir de jeudi, un article de Louis Robert, en fait, c'est un texte d'opinion de Louis Robert, l'agronome qu'on connaît bien, qui avait démissionné du ministère de l'Agriculture parce qu'il trouvait que notre système était un peu étrange, ou sinon dysfonctionnel. Et il revient à la charge parce qu'on semblerait que ça n'a pas bougé. Puis il est assez d'actualité parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci, la dégradation de nos lacs qui sont envahis d'algues toxiques. Alors, il commence comme ça. « Nos cours d'eau ne montrent toujours pas d'amélioration sensible de qualité en ce qui concerne la concentration excessive en phosphore, très majoritairement d'origine agricole. » Malgré les sommes colossales qu'on y a consacrées et la réglementation en vigueur depuis plus de 28 ans, avec les conséquences que l'on sait, interruption de l'accès à l'eau potable, restriction aux usages récréatifs et sportifs, risque accru pour la santé humaine, etc., tout ça risque de s'intensifier avec le réchauffement climatique. Ce que l'on sait moins, par contre, c'est que la majorité, jusqu'à 85 % du phosphore, que l'on retrouve dans les cours d'eau et les lacs est le résultat d'applications excessives en engrais et suppléments alimentaires, c'est-à-dire excessives par rapport aux besoins réels des cultures et des animaux. D'une certaine façon, ce constat issu de la recherche devait être reçu comme une bonne nouvelle. On n'aurait qu'à éliminer les excès sans risque d'affecter les rendements des cultures, les performances animales ou la rentabilité des exploitations, pour enfin enregistrer des améliorations substantielles à la qualité des cours d'eau et une atténuation globale des conséquences néfastes à l'environnement et à la santé. Il y a là, en somme, une parfaite comptabilité entre les objectifs agronomiques, environnementaux et économiques. Par contre, le problème, c'est que, pour des raisons complexes qu'on ne pourra pas expliquer ici, c'est que on n'arrive pas à réduire les épandages d'engrais chimiques, de pesticides, etc. Les normes du Québec sont trois fois celles de l'Ontario. Pourtant, ça coûte plus cher, mais le système fait qu'on ne veut pas réduire nos utilisations d'engrais chimiques. Alors, il dit, le ministère de l'Environnement n'aide pas sa cause ni la nôtre dans ce dossier. Il autorise encore d'importantes augmentations de cheptels pour les élevages hors sol, ainsi que des épandages de boues municipales très chargées en paix dans les bassins versants dégradés. On ouvre le robinet encore plus grand. Somme toute, des défis qui relèvent davantage des enjeux éthiques et politiques que technologiques ou agronomiques et pour lesquels les solutions appropriées sautent aux yeux. Imposer une tutelle à l'OAQ, c'est l'organisme des agronomes du Québec, engager des agronomes pour leur confier la mission essentielle de transfert technologique et exiger un minimum d'intégrité des gestionnaires de la fonction publique. Tout ça ne coûterait qu'une fraction des sommes englouties dans les inefficaces programmes d'aide financière et autres plans pour une agriculture durable. C'est que on investit beaucoup pour des initiatives de mitigation, alors que tout simplement, on pourrait réduire l'utilisation des engrais et ça n'aurait aucun impact sur l'agriculture, puis ça protégerait nos lacs. En tout cas, c'est à suivre. C'était dans le Devoir, pour ceux qui s'intéressent, dans le Devoir de jeudi, hier. Le texte s'intitule « Quelqu'un pourrait fermer le robinet ». C'est un texte de Louis Robert. Il y avait aussi dans la même page « nous approprier notre transition écologique pour mieux la réussir ». C'est que les batteries d'auto électrique contiennent beaucoup de nickel. L'autrice est une Sophia Roy, est candidate au doctorat et chargée de cours au département de génie chimique et de Polytechnique Montréal. Et ce qu'on dit dans l'article, c'est que la majeure partie du nickel est produite en Indonésie pour la Chine, ou c'est financé par la Chine. C'est là que les batteries sont faites. Et on estime que l'empreinte carbone du nickel mondial à 19 tonnes de CO2 par tonne de minerais produits. Toutefois, elle parle des différents procédés. Le procédé qui est utilisé en Indonésie émet 140 tonnes de CO2 par tonne de nickel, principalement dû à sa forte consommation en charbon. Par comparaison, le nickel produit à Terre-Neuve avec un produit de purification chimique alimenté à l'hydroélectricité émettrait 30 fois moins que l'autre procédé. Si on transpose cet écart de carbone, de bilan de carbone d'une voiture électrique au Québec, il faudra rouler 18 000 km de plus pour compenser par rapport à une voiture à essence la production du nickel venu de l'autre procédé versus celui de Terre-Neuve. Alors, c'est pas simple. C'est toujours compliqué, ces histoires-là. Ensuite, dans le devoir de jeudi, toujours, un article intéressant sur un suivi qu'on fait, ça s'appelle « Suivre la santé de la forêt boréale avec les nictales ». C'est que les nictales, ce sont des indicateurs des bio-indicateurs. Les experts appellent que le nictal de Tanglan est un bio-indicateur important de l'écosystème boréal et que les résultats de leur étude pourraient à terme appuyer le développement de projets de surveillance pendant la période de reproduction. Alors, c'est un programme qui existe au Québec que je ne connaissais pas, là, de surveillance des nictales, parce que ça nous donne une indication de la santé de l'écosystème. Puis, comme on peut s'en attendre, là, c'est que l'écosystème de la forêt boréale est en déclin. Et parce que les nictales vont de moins en moins bien. Et alors, c'est dû à toutes sortes de phénomènes, dont l'exploitation forestière. Alors, c'est un dossier à suivre. On dit, selon les scientifiques qui étudient la biodiversité en forêt boréale, la protection de pans entiers des écosystèmes forestiers serait nécessaire afin de préserver des lieux de reproduction de la faune aviaire. La protection d'espèces comme le caribou forestier peut, par exemple, permettre de protéger l'habitat de plusieurs autres espèces, comme les nictales. Puis, dernier article dans cette lignée-là, le déclin généralisé de la croissance des arbres au pays, des chercheurs de Ressources naturelles Canada tirent cette conclusion après avoir analysé les scènes de croissance de 55 000 arbres. En étudiant la croissance des arbres, bien aussi, on voit que la croissance des forêts est en diminution. Il y a un déclin de la croissance des forêts, entre autres attribués aux sécheresses. Le climat change beaucoup plus rapidement que la capacité des forêts à s'adapter, relève Martin Girardin, auteur de l'étude et chercheur au Centre de foresterie des Laurentides des Ressources naturelles Canada à Québec. Avec ses collègues, M. Girardin a assemblé une base de données qui porte sur 55 000 arbres. Pour chacun de ces arbres, une carotte montrant les cernes annuelles de croissance étaient disponibles. Les scientifiques ont découpé le territoire en 647 petits carrés puis ont calculé la variation du taux de croissance moyen dans chacune de ces zones pour la période s'échelonnant de 1950 à 2018. Résultat, les scientifiques ont observé un déclin significatif de la croissance des arbres dans 42 % des parcelles étudiées. À l'inverse, une augmentation significative de la croissance a été décelée dans seulement 8 % des parcelles. Dernière petite nouvelle, il y avait un texte de Jean-François Nadeau sur le film sur George Orwell du cinéaste Raoul Peck. C'est très d'actualité, George Orwell, 1984. Et le titre du film, c'est « 2 et 2 égale 5 ». Et ce film-là est actuellement projeté au CLAP. Alors, si ça vous tente d'aller le voir, il est en salle présentement. Moi, je vais certainement aller le voir. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Alors, voilà, c'est le film 2 et 2 égale 5 de Raoul Peck. Alors, on prend une petite pause musicale, puis on va parler de véganisme au retour avec Stéphane Groslot.
Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace, pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Ils viendront de fleurs qui s'installent, toutes fraternelles et amicales, loin des champs de bataille où des humains sont pris en tenaille. Ils s'activent lorsque je me tais, sont pleins de promesses, je le sais, qu'arrive la calmie nécessaire pour chérir entre ciel et terre. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace, pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches. Dans le roulis du vaille que vaille sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. Dans le roulis du vaille que vaille sont presque tous de belle taille, deviennent uniques et salutaires pour alimenter le mystère. Combien reste-t-il de jours de grâce au calendrier du temps fugace, pour qu'éclosent les fruits qui se cachent dans leurs écrins et leurs attaches.
Alors, bonjour Stéphane.
Et bonjour Jacques.
Alors, c'est ça, on s'est jasé un peu tantôt, puis tu me disais que tu avais beaucoup de choses à annoncer ou à parler. Il se passerait beaucoup de choses au niveau du véganisme ces temps-ci.
Ben en fait, oui, puis c'est drôle parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses, mais il y a des choses, on a eu des nouvelles négatives ces derniers temps, par exemple des entreprises qui produisaient des aliments véganes, puis qui ferment, par exemple, tous les produits EVG, que ça fait 40 ans qu'ils existent, que finalement, en fait, ça avait été racheté il y a déjà moins d'une vingtaine d'années par Inde Celestial, puis finalement, décision probablement administrative et autres, ils ont décidé d'arrêter la ligne de produits, mais on a vu la compagnie montréalaise Gusta qui a commencé à développer une ligne de produits pour un peu prendre la place de plusieurs des produits. Donc, ça bouge quand même beaucoup. Mais effectivement, on est dans cet automne à Québec. Et il y a quand même plusieurs activités en lien avec le véganisme, l'éthique animale qui vont avoir lieu et qui peuvent être intéressantes pour les gens de participer.
Donc, as-tu des détails un peu sur
oui.
ça?
En fait, on a entre autres les Amis de la Terre de Québec qui organisent la projection du film Animal qui va avoir lieu à la bibliothèque Gabriel Roy le 6 novembre. Donc, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire sur le site de la bibliothèque ou aller voir sur le site des Amis de la Terre de Québec. Mais sinon aussi, ben, il y a toujours nos potlucks mensuels à Québec, nos potlucks vegan au Centre Jacques-Cartier. Le prochain, ça va être le vendredi 14 novembre. Mais aussi, on est vraiment contents.
En passant, le potluck,
il est à quelle heure puis à quel endroit?
OK, c'est le potluck, c'est à 6 heures. C'est okay. Au centre Jacques-Cartier, qui est sur oui. L'Angelier.
Oui, oui, oui.
En fait, c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit. C'est juste que le coût d'entrée, si on veut, c'est d'amener un plat vegan, sans produits animaux, à partager avec les autres. Donc, ça fait qu'on se ramasse avec une tablée, avec plein de plats différents, qu'on goûte à plein de choses, on parle avec des gens. C'est très convivial. Donc, c'est vraiment...
Ça fait longtemps que tu fais ça, hein?
Oui, oui. Je l'ai fait à l'époque pendant 10 ans avec la Corderie de Québec. Okay. Il y avait leur local. Puis ensuite, il y a eu une petite pause. Puis on a recommencé depuis quelques années là, avec okay. des amis. On a reparti ça au centre Jacques-Cartier.
OK. Ouais. Le 23...
C'est le 14, ça. C'est le 14 novembre.
14 novembre, OK.
À 18h au centre Jacques-Cartier.
Ça aussi, c'est annoncé sur le site des Amis de la Terre?
Je ne sais pas s'il l'annonce. Des fois, il l'annonce, mais sinon, c'est sûr que Vegan Québec, c'est pas mal okay. la référence là-dessus. Ouais, ou ouais. On a un groupe avec plusieurs milliers de personnes pour la région de Québec. C'est Vegan Région de Québec. Donc là, on diffuse les activités, puis c'est un site de partage de trucs pour s'entraider, puis connaître les nouvelles activités, nouvelles ressources ou les nouveaux... resto vegan et des choses comme ça.
D'ailleurs, le site Vegan Québec, là, pour ceux qui veulent avoir des ressources sur le véganisme, là, c'est comme une bonne...
Moi, ça fait 20 ans que j'ai mis en place, j'avais commencé ce site-là, parce que quand je suis devenu vegan, j'avais le goût de diffuser, mais aussi d'être en contact avec des gens, puis d'avoir une présence sur le web. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Là, maintenant, il y a beaucoup plus de ressources, mais mon site reste quand même actif, puis je diffuse les activités auxquelles je participe ou j'organise. Puis justement, dans cette lignée-là, il va y avoir le 2 décembre la conférence de Suzanne Zacour, qui vient de sortir un livre. Son livre, ça s'appelle « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ?» Donc, c'est vraiment... Suzanne Zacour est vraiment... Elle écrit plusieurs livres déjà. C'est vraiment une féministe très engagée, mais aussi très intersectionnelle dans sa façon dans son approche. Elle est chercheure, avocate, autrice. Donc, c'est vraiment une personne qu'on est vraiment content de recevoir à Québec pour faire sa conférence en lien justement avec le livre qu'elle vient de sortir. Donc, ça va être le 2 décembre au centre Frédéric Bach en Haute-Ville, sur Salaberry. Et c'est à 19h, donc c'est vraiment à ne pas manquer si les gens veulent en savoir plus.
Oui.
Ah, OK. C'est pour les activités, c'est vraiment ça. Sinon, oui. En ligne, il va y avoir... j'organise aussi une collègue. On fait justement, Jacques, tu parlais d'agriculture tantôt puis de problématiques avec le phosphore et autres, mais justement... Il y a des alternatives. Et moi, je suis impliqué dans tout un mouvement international sur l'agriculture véganique, qu'on appelle. C'est une agriculture qui se veut sans produits chimiques et sans élevage, sans être animal. Donc, ça, c'est un autre volet vraiment important de construire une alternative, parce que souvent, on va critiquer, on va dire l'élevage cause des problèmes de gaz à effet de serre, de pollution. Mais il y a des alternatives qui se développent, dont le mouvement véganique. Et justement, on a un sommet sur l'agriculture véganique du 7 au 9 novembre. Et justement, c'est gratuit pour écouter les conférences. On a des conférenciers de partout sur la planète. C'est en anglais, malheureusement, pour les gens, s'ils ont de la difficulté ça va être plus à comprendre l'anglais, ça va être plus difficile. Mais les conférences sont gratuites. On a des visites de ferme, on a des différentes thématiques qui vont être abordées pour que ce soit la biodiversité, comment cultiver en faisant des blocs de terre pour nos semis. Donc, c'est vraiment très varié et c'est une belle occasion de s'ouvrir à une autre façon de cultiver, de jardiner ou de montrer à quel point on peut construire un monde alternatif qui est possible au Québec et ailleurs dans le monde.
Ça aussi, c'est annoncé sur le site Vegan.
Oui, c'est ça, ouais, oui, ça s'est diffusé un peu partout. Ouais. Mais c'est Veganic Summit, en fait, c'est facile à trouver, mais oui.
OK. Quand on parle de jardinage, automatiquement, par contre, on parle de véganisme aussi. Ça, c'est...
Pas nécessairement.
Ah non?
Parce qu'en fait, souvent, pour fertiliser, les agriculteurs vont utiliser de la farine de sang, de la poudre d'os, évidemment, souvent du fumier. Mais souvent, le fumier, par exemple, si on prend les granules de fumier de poulet, c'est des poules élevées en batterie. On prend le fumier, on le fait sécher et les gens épandent ça dans leur jardin. Mais généralement, les poules élevées en batterie, ben, il y a eu beaucoup d'engrais chimiques, d'antibiotiques qui ont été utilisés. Ça se retrouve dans les fientes, dans les excréments, et les gens mettent ça dans leur jardin. Donc, oui, ça fertilise, mais ça finance toute une industrie d'élevage qui, elle, dépend des OGM, de l'agriculture conventionnelle. Donc, c'est pour ça que depuis au moins 30 ans, qu'il y a tout un mouvement qui est né en Angleterre, mais aussi qui s'est développé partout avec plusieurs différentes approches de l'agriculture végétale sans intrants animal ou vegan, organic en anglais. Nous, on aime bien dire véganique, donc c'est un mélange de vegan et biologique. Et c'est tout un mouvement qui se veut éviter les produits animaux, éviter l'élevage, éviter les intrants chimiques, pesticides. Et pour justement un peu s'en départir, il faut vraiment axer sur la biodiversité. Donc, vraiment avoir des espaces laissés plus naturels, d'avoir des fleurs, d'avoir un pays au sol, de vraiment tout revoir notre conception de l'agriculture et du jardinage et en mettant beaucoup l'accent sur la vie du sol. Donc, les gens, une critique des fois, les gens vont dire ben ça prend des animaux, vous avez besoin d'animaux, mais en fait, on n'a pas besoin d'animaux d'élevage quand on a des millions ou même des milliards de formes de vie dans le sol. Puis plus on connaît la vie du sol, plus on se rend compte que c'est tout intriqué, c'est qu'il y a tout un réseau, c'est une chaîne de vie dans le sol qui est vraiment fascinante et que c'est elle qui va permettre à la plante de pousser. Ces organismes-là vont digérer, c'est comme le système digestif des plantes, ben c'est dans le sol, ça bouge. Puis en fait, nous, en tant qu'humains, notre système digestif s'inspire même beaucoup des plantes. On voit que les mêmes types d'organismes, de bactéries. On consomme des fibres, on consomme des aliments, puis tout ça se transforme en d'autres choses qu'on a besoin, comme le fait la plante. Donc, c'est vraiment un monde à découvrir. Mais donc, c'est beaucoup axé là-dessus, là, les piliers de l'agriculture végane. C'est vraiment la biodiversité, le sol et éviter de mettre des intrants animaux ou chimiques.
Mais ça ressemble beaucoup à la permaculture.
C'est très proche, effectivement. C'est sûr qu'en permaculture, des fois, la permaculture, à la base, c'est plus un système de conception d'un environnement, d'un système. Donc, il n'y a pas de méthode spécifique. Mais souvent, en permaculture, les gens, c'est des gens qui consomment des produits animaux. Donc, ils vont souvent concevoir leur environnement avec des animaux inclus dans le système. Puis effectivement, si les gens ont des poules, mieux vaut prendre le fumier de poule puis le mettre dans le jardin plutôt que le jeter. C'est évident. Mais si, comme on a toute la permaculture végane qui existe, on a Graham Burnett. Moi, j'ai traduit un livre même sur la permaculture il y a plusieurs années où ce que tout dépend du point de départ où ce qu'on est. Si on dit qu'on veut développer un système où ce qu'on n'exploite pas les animaux, on va développer un système. Puis, d'un sens, si on regarde tout ce qu'il y a dans la nature, dans la forêt, on n'épand pas du fumier partout à terre. Tu sais, c'est comme, puis les animaux sont en liberté, puis c'est ce qu'on prône aussi, que les animaux, les oiseaux, s'ils veulent, ils peuvent venir dans le jardin, mais ils ne sont pas attachés là. Il peut avoir un passage. Mais donc, vraiment, l'idée, c'est, oui, on peut faire de la permaculture, mais en prenant des principes qu'on va avoir un sol vivant, on va avoir une diversité de plantes, puis on va produire des plantes pour nourrir les humains. C'est ça aussi l'idée derrière. Ben, produire des fleurs, des choses pour nourrir le sol, mais aussi que la priorité ce que l'on cultive, ça va être pour consommation humaine et non pour consommation animale, parce qu'on sait aussi qu'à chaque étape de transformation des aliments, il y a une grosse perte de nutriments, en fait de valeur de calories. Donc si on prend la nourriture qu'on donne à manger à des vaches, puis après ça on mange les vaches, mais à chaque étape il y a eu une perte. Donc aussi bien prendre directement les végétaux puis nourrir les humains, et ça implique de cultiver des choses qui sont pour consommation humaine.
Là, il y a un autre nom aussi, ça me fait penser à la permaculture. C'est la première fois que j'entends parler de l'agriculture végane. Je vais retenir ce concept-là. Mais ça s'appelle aussi l'agriculture régénérative. C'est que celui qui fait de la permaculture, ce qu'il y a en dessous du sol est aussi important que ce qu'il y a au-dessus.
Ouais.
Il cultive son sol. Puis en permaculture, on essaie de le moins possible perturber son sol, le Parce qu'à chaque fois que tu brandes ta fourche, là, tu viens de tuer, tu viens de bouleverser l'écosystème dans le sol. Là.
Oui, c'est ça. La permaculture, ça vise vraiment à s'inspirer de comment ça se passe dans la nature. C'est vraiment ça. C'est d'abord observer, voir comment ça se passe. Puis même dans les principes de permaculture, quand on fait la conception d'un aménagement, bien, c'est toujours de laisser des espaces naturels, non travaillés, non aménagés pour... Ça peut être une source de biodiversité, mais ça peut être aussi une source d'inspiration de comment ça se passe là-bas, puis ensuite en s'en inspirer. Donc, oui, puis c'est... Ben, la permaculture, c'est un monde en soi. Là. Les formations, c'est des semaines de juste intenses pour tout voir les facettes que ça recoupe, mais c'est fascinant d'avoir ce regard-là, de voir que la nature est notre enseignant, et si on s'en inspire, ben, on peut essayer de se rapprocher de ça, de faire en sorte que... Il est tellement le principe intéressant d'avoir comme quand on met un élément dans le système qui a plusieurs fonctions, par exemple. Donc, s'assurer d'une redondance dans les éléments de notre système, s'assurer que quand il y a une énergie qui rentre dans le système, que ce soit de l'eau ou du soleil, ben, on l'utilise le plus longtemps possible avant de s'en départir. Donc, c'est là qu'on voit le cycle des nutriments et le cycle de... Fait qu'il y a vraiment plein de principes vraiment, vraiment fascinants que... Peut-être pourrait être un sujet de
oui,
chronique
un jour.
C'est
un beau sujet, ça. Écoute, on va prendre une petite pause musicale, puis on va poursuivre sur le véganisme, peut-être aussi un peu sur l'éthique animale au retour. Alors, c'était un extrait de Schubert. La pianiste, c'est Natalia Labiau, L-A-B-I-A-U. C'est un extrait de Impromptu de Franz Schubert. Avant ça, on avait eu Jean-Marc Aurel de son album Il court après la lune. C'était Fruits et mystères. Puis en début d'émission, Richard Séguin de l'album Retour à Walden. C'était la pièce, justement, Walden. Bon, alors Stéphane, on va parler un peu de la thématique de l'émission cette année, c'est l'identité. Alors, tu me mets un peu le sujet dans la bouche, c'est que moi, je pense qu'on a tendance à se voir comme à part de la nature, et puis c'est ça qui fait qu'on est dénaturé, puis tous nos problèmes, là. En fait, on est des animaux. Et d'où aussi le véganisme qui est la reconnaissance que pourquoi qu'on maltraite les animaux alors qu'on a une éthique entre des humains, on devrait avoir la même éthique avec les animaux.
Oui, exactement. Mais c'est ça justement, on a même un terme qui a été développé puis très réfléchi, c'est l'antispécisme ou le pendant qui est le spécisme. Donc c'est vraiment cette idée de faire une discrimination de l'autre basée sur l'espèce. Donc, parce que l'autre serait une espèce différente de la nôtre, on aurait le droit de l'exploiter. Comme, c'est une analogie, là, c'est pas parfait dans tous les sens du terme, mais, par exemple, on a souvent dit que le féminisme, à cause que c'est un autre sexe, les femmes, on pourrait les exploiter, ou à cause, au niveau des races, c'est une autre race, on peut les exploiter. Ben, un peu dans cette même lignée de pensée, on dirait que parce que c'est une espèce différente, on se sentirait légitime de l'exploiter. Mais en fait, quand on regarde au niveau de la biologie, quand on regarde toutes les études en éthologie, primatologie, on se rend compte à quel point les animaux non humains ont à peu près toutes les mêmes caractéristiques que nous, les humains, mais à une échelle différente. Mais justement, la très regrettée Jane Goodall, qui est décédée récemment, mais c'est une des pionnières à avoir démontré que les primates, ben en fait, c'est juste un niveau d'échelle, la différence avec nous. Elle a découvert que, par ses observations, ils utilisaient des outils primitifs, mais ils utilisaient des outils, ils riaient, ils s'amusaient, ils ont une relation sociale, ils vivent des émotions, et ils jouent ensemble. Le jeu aussi fait partie de chez les primates, mais comme chez beaucoup la majorité des mammifères et beaucoup d'animaux, on voit même des fois des vidéos où des oiseaux qui vont s'amuser à glisser, par exemple, qui vont s'amuser à chamailler entre eux. Donc, ce qu'on a souvent essayé de tenter de définir comme « Ah, ça, c'est seulement l'humain qui a ça, okay, c'est seulement l'humain qui est capable de créer des outils, seulement l'humain qui est capable de réfléchir ou de parler. » En fait, tout ça tombe, plus les études scientifiques, plus qu'on commence à s'intéresser à l'autre, plus on se rend compte que l'autre est comme nous. Puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant de se rendre compte que le fait de s'intéresser à l'autre, de trouver les communs ensemble, de trouver qu'on a des choses en commun, puis en fait, on dirait que c'est un peu l'inverse de dire que c'est loin des yeux, loin du cœur, mais en fait, au contraire, près des yeux, près du cœur, puis c'est ça vraiment de dire prenons la peine de s'en préoccuper des autres, des animaux et de la nature, et on va vouloir en prendre soin. Puis c'est vraiment ça que, pour moi, le véganisme, c'est vraiment ça, c'est sûr que moi, c'est né du fait qu'on n'était pas sûr au début, ben, est-ce qu'on peut vivre sans manger d'animaux ou est-ce qu'on peut survivre? Mais oui, finalement, on a facilement, moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je mange plus de produits animaux, puis on se rend compte, les études montrent qu'on peut être en très bonne santé si on a une alimentation équilibrée. Donc, le principe de « c'est nécessaire d'en manger » tombe et on se rend compte que quand on se préoccupe de l'autre et des animaux, ben on va le respecter, on va vouloir le bien de l'autre. Et je pense qu'on se sent même mieux, on se sent encore plus en communion avec tout le règne animal.
Moi, je pense qu'on perd beaucoup, on appauvrit nos vies en se dénaturant. Puis dans le fond, c'est que en se dénaturant, on craint la nature. Tu sais, les gens vont en nature. Alors que la nature est bienveillante, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais la nature ne veut pas ton mal. Elle veut ton... On est comme un partenariat. Hein. Et j'avais vu un extrait de Taureau, justement, que j'aime beaucoup, qui était un amant de la nature, mais lui, il était fasciné par les Indiens, les Autochtones, on devrait dire les Autochtones. Puis, il voulait faire un voyage, une longue randonnée en nature avec un guide amérindien, là, dans le Maine. Puis, lui, Taureau, apparemment, c'était un grand marcheur, là, puis c'était pas facile, il était pas facile à suivre. Il était très robuste, puis vraiment pas facile à suivre. Mais Dahl, il raconte son expérience avec le guide, puis il dit « Ouf, j'avais de la difficulté à suivre. » C'était très dur de le suivre. Et après quelques jours, il s'était fait un feu, là, puis il était en train de parler avec son guide, puis il lui dit « Oh, ça va faire du bien de retourner à la maison, là, je commence à être fatigué. » Puis le guide l'a regardé, bien, il dit « Moi, je suis déjà à la maison. » C'est ça, là, la différence, c'est que quand tu vois la nature bienveillante, tu profites tellement plus de la vie. Ça ne veut pas dire qu'elle est. Ça veut pas dire que c'est facile. Ça demande d'aller en nature ou dans le bois. Les Indiens, il y a des techniques, ils apprennent à survivre. Là. Mais ils ont une attitude complètement différente de nous, que nous, c'est l'inconnu, la peur, la crainte. Puis ben, moi, les animaux, j'ai une grande sensibilité par rapport aux animaux. T'sais. Je les regarde, je les trouve extraordinaires, puis qu'ils survivent dans nos villes. Tu sais, que je regarde les écureuils, là, il n'y a personne là, qui va à l'épicerie. Où, il survit dans un milieu hostile. Moi, je suis émerveillé devant ça.
Oui, ben c'est ça. T'sais. En fait, de voir qu'on fait partie de la nature, en fait, qu'on fait partie du règne animal, de l'accepter, je pense, parce que je pense que la religion a aussi beaucoup aussi essayé de nous distancer de l'humain a une âme, puis les autres n'ont pas d'âme, donc ce qui fait qu'on est différent, puis nous, on va aller au paradis et autres, mais je pense que de se ramener au fait que biologiquement, clairement, on est des animaux, c'est évident, et donc de juste se remettre dans ce mode de pensée-là, oui, on fait partie du règne animal, on fait partie de la nature, et même, c'est vraiment intéressant que même la science amène maintenant des preuves que être en nature, c'est bon pour la santé, ça développe l'oxytocine. On sait qu'on peut même, les mêmes des médecins qui vont prescrire d'aller prendre un bain de nature. Donc, la nature, on a évolué dans la nature, dans un environnement plus sauvage peut-être, qui fait qu'on en a besoin de cette air-là, de ces molécules-là qui circulent dans la forêt et ailleurs, que ça fait partie de, je pense, de notre évolution, de notre comment l'humain a évolué en présence de la nature. Donc ça, c'est quand même très important. Donc, de se voir connecté, pour moi, je pense que c'est vraiment important. Et peut-être juste pour une précision aussi par rapport au spécisme ou antispécisme, ou ce que de voir comme si le fait que c'est une autre espèce, on soit légitimé de l'exploiter, mais il y a un autre volet de ça intéressant, c'est les gens, la majorité des gens qui ont des animaux de compagnie voient à quel point ils sont attachants, qu'ils sont intelligents, ils ont leur personnalité, chaque animal est individuel. On ne va pas dire que les chats sont tous pareils dès que tu as vu un chat ou que tu as eu un chat. Ce qui fait que de là, il y a toute cette logique-là du fait que pourquoi les chats, les chiens, on les respecte, mais qu'on parle de vaches, de poules ou de cochons, ceux-là, on les exploiterait. Alors que on sait que les cochons, par exemple, sont aussi intelligents qu'un chien. Il y a même une époque qu'en France, les gens prenaient des cochons pour à la place des chiens, par exemple, pour aller à la chasse, par exemple. Même bon, c'est un peu un paradoxe étrange, mais comme quoi les animaux ont tous une valeur en soi et sont tous intelligents et ont tous une personnalité à leur niveau. Donc, c'est là que de dire ben, pourquoi on distinguerait les animaux de compagnie et les animaux d'élevage et les animaux de loisirs et autres. Donc, l'idée, c'est vraiment plus de voir les animaux en général comme méritent le respect et éviter de les exploiter autant que faire se peut, je dirais. T'sais, c'est un peu plus ça, moi, que je dirais. Puis vu que c'est rendu facile quand même, surtout au Québec, si on veut s'alimenter sans dépendre de produits animaux, ben on a des ressources, on a, que ce soit en cuisinant ou dans les restaurants ou à l'épicerie, c'est vraiment rendu facile. Donc, c'est de là l'idée que on peut, si on veut faire un pas de plus en réduisant ou en éliminant les produits animaux, pour moi, c'est un peu ça qu'on voulait montrer par nos potlucks vegan qu'on fait justement, de voir la diversité des possibilités et que ça peut être très bon. Et on n'est pas en train de se priver. Pour moi, en fait, c'est toujours été comme plus une libération, comme une pression sociale de manger des animaux, alors que quand on se rend compte que c'est pas nécessaire puis qu'on le fait consciemment, c'est plus un sacrifice. Pour moi, c'est vraiment une libération. Mais c'est sûr que ça dépend toujours du point de vue de départ, mais en s'informant, en étant en contact avec les animaux, on se rend compte à quel point ces animaux-là veulent vivre leur propre vie aussi. C'est ça souvent que on oublie, que les animaux, c'est tout. Si c'était, pour moi, c'est de l'empathie. Là. Ça vient juste une question d'empathie. Est-ce que on aimerait être à la place de l'animal dans une cage? Est-ce qu'on aimerait être à la place de l'animal à devoir être enfanté chaque année pour pouvoir produire du lait, par exemple? Donc, si on mettait à la place de l'autre, que ce soit l'animal ou des gens ou peu importe, ça change notre perspective. Puis c'est vraiment de la relativisation. Pour moi, c'est vraiment l'empathie. C'est une des valeurs que je trouve qui est vraiment, vraiment pertinente pour s'ouvrir à l'autre et réaliser que, ben, peut-être le respect serait plus pertinent.
On va prendre une petite pause musicale encore, puis au retour, on va conclure l'émission. Garder du temps pour conclure. Alors, c'était un extrait de l'album Vision, The Music of Hildegard von Bingen, qui était une écologiste. C'était au Moyen Âge. Cette femme-là était célèbre. Elle avait une abbesse, là, une moine, okay, qui a beaucoup écrit, fait de la musique. C'est une personne très spéciale, encore, Hildegard von Bingen. Oui, alors, il va nous rester quelques instants pour conclure. Une chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est qu'on a tendance à projeter sur la nature nos propres biais, c'est-à-dire beaucoup la compétition puis l'exploitation. Puis on a projeté ça beaucoup sur la nature, que tous les animaux sont en compétition entre eux autres. En fait, certains auteurs ont démontré, puis la plupart des scientifiques, en fait, la vaste majorité du moteur de la nature, c'est de la coopération. Si tu parlais dans notre corps, là, dans nos intestins, là, des milliards de bactéries qui collaborent ensemble pour nous garder vivants. Dans le sol, c'est la même chose, les plantes. En fin de compte, la nature, c'est de la coopération.
Oui, vraiment, vraiment, c'est une super belle observation parce que, en fait, à tous les aspects, à l'échelle microscopique, macroscopique, on voit l'entraide, on voit... Puis c'est sûr qu'il y a des fois de la compétition, puis effectivement, il y a un peu de prédation aussi des animaux, mais si on prend le lion qui va chasser la gazelle, en fait, il va peut-être en chasser une pour se nourrir, mais il va pas en chasser plusieurs pour commencer à en vendre. Puis c'est vraiment l'essentiel. C'est plutôt aller à l'essentiel. Et ensuite, ben, le reste, c'est toute les animaux, la vie s'entraide, collabore. Souvent, les résidus d'un servent comme une ressource pour l'autre. Donc, c'est tout est quand même interconnecté dans la nature.
Puis le prédateur a son rôle souvent, même il va... c'est comme la nature, il va peut-être s'attaquer aux malades ou aux plus faibles. Il y a comme cet animal-là, il serait peut-être mort par lui-même dans la nature. Et comme tu dis, il n'y aura pas de perte, là. Il va être consommé par les prédateurs. Tout dans la nature ont sa raison d'être, là. Les prédateurs sont là pour une raison. Que la nature, c'est comme un tout, là, logique, là, puis elle a besoin des prédateurs pour fonctionner. Mais c'est pas le prédateur n'est pas en compétition avec la gazelle. Ils sont tous complémentaires, la nature. Et puis comme je disais, la majeure partie de ce qui se passe en nature, c'est de la coopération. Mm-hmm. C'est exceptionnel, la compétition. Mais là, il nous reste environ 2 minutes. Peut-être qu'on pourrait revenir là, pour des rappels pour les annonces que tu as faites.
OK. Bien, en fait, rapidement, le 6 novembre, avec les Amis de la Terre, il y a la projection du film Animal à la bibliothèque Gabriel Leroy. C'est à 18h30. Il va y avoir le sommet sur l'agriculture véganique en ligne. C'est Veganic Summit. C'est du 7 au 9 novembre. C'est des vidéos en ligne. C'est gratuit, des conférences, mais en anglais. Il y a notre potluck, prochain potluck vegan le vendredi 14 novembre à 18h au Centre Jacques-Cartier. Pour ceux qui vont dans le coin de Montréal, il y a le Festival vegan de Montréal du 15 au 16 novembre. Et sinon, ben, la conférence à ne pas manquer, c'est le 2 décembre avec Suzanne Zacour. Ça va être au Centre Culture et Environnement Frédéric Bach. C'est pour, entre autres, en lien avec son livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ».
En gros, là, c'est de quoi qu'elle parle dans son livre?
En fait, c'est vraiment... Elle va parler de féminisme, de véganisme, mais aussi le lien entre tout ça. Pourquoi, par exemple... En fait, on pourrait lire le petit synopsis de description, là, mais en fait, de son livre, mais qui est aussi sa conférence. Et, son synopsis, c'est « Pourquoi les éleveurs traitent-ils leurs vaches de bitch? Pourquoi maquille-t-on les cochons dans les publicités de bacon? Pourquoi vend-on des barbecues pour la fête des pères? » Et pourquoi Trump ne mange-t-il pas de tofu? C'est ce qu'elle dit, Suzanne. C'est, on me demande souvent pourquoi je suis féministe, encore plus souvent pourquoi je suis végane, et si la réponse était la même. Donc, c'est vraiment de voir le lien entre souvent l'exploitation des femmes, l'exploitation des animaux. Souvent, c'est une cause qui peut être commune.
Donc, on va rappeler, c'est le mardi 2 décembre, 19h, au Centre Frédéric Bach, dans le fond. Salle 324, 870, Avenue Salaberry, à Québec. Alors, l'émission est terminée. Merci beaucoup, Stéphane. Ça passe vite. Oui, il faudra faire une autre émission sur le sujet. Moi, j'avais d'autres choses à dire, puis on aurait pu encore plus élaborer sur ce sujet-là. Notre identité animale, je pense que ça serait pertinent qu'on fasse une autre émission, étant donné que l'identité, c'est notre sujet là, cette année. Alors, merci beaucoup, Stéphane, puis à la semaine prochaine, tout le monde.
Merci, Jacques.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'Entrepôt du rock, avec des morceaux de qualité comme...
étoffes et d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'Entrepôt du Rock avec Yannick Plouffe, une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.
Bonjour, ici Rémi Giguère. Voici votre bulletin du vendredi 17 octobre 2025. Demain à Québec aura lieu la 6e Marche mondiale des femmes sous le slogan « Encore en marche pour transformer le monde ». La marche débute à midi et se termine à 15h devant l'Assemblée nationale. Ayant lieu aux 5 ans depuis l'an 2000, la Marche mondiale des femmes est un mouvement d'action internationale et féministe réunissant des groupes et organisations de base qui œuvrent à l'élimination des origines de la pauvreté et des violences faites aux femmes. Avant la marche, le site s'animera dès 10h avec notamment des kiosques d'éducation populaire autonome féministe, des cours d'autodéfense et des artistes sur scène.